Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Catherine est de retour. Bonjour ma chère Catherine.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
Avec vous dans ce studio, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta. Bonjour.
Bonjour
à tous les trois.
Bonjour.
Jusqu'à 11h, on va passer au crible l'actualité de la semaine avec tout d'abord, bien sûr, ce rebondissement inattendu hier soir.
La question d'un confinement se pose légitimement, mais nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter.
Jean Castex qui prend la parole depuis l'Élysée, pas de troisième confinement finalement. L'heure est grave, nous dit-on, et pourtant un simple serrage de vis. Est-ce une erreur politique? Ce sera le premier thème de notre débat. Les grandes voix, j'ai aussi envie de vous entendre sur la recherche française, les échecs de Pasteur et de Sanofi sur les vaccins, la fuite des cerveaux, le patron français de Moderna qui tacle l'Union européenne.
Malheureusement, bien qu'on ait des discussions très tôt avec certains pays européens au printemps dernier, on a effectivement perdu du temps parce qu'on n'a eu aucune aide pour construire l'outil industriel.
Et puis troisième débat, Marine Le Pen peut-elle rêver de l'Élysée? Un sondage la donne au coude à coude avec Emmanuel Macron en 2022 si la présidentielle avait lieu demain.
Ce que ça dit, c'est que l'hypothèse de ma victoire est une hypothèse crédible et même plausible. Et c'est vrai que ça change tout.
Voilà pour le programme de ce débat des grandes voix. Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Quel coup de théâtre. Toute la semaine, l'exécutif nous a fait comprendre que l'heure était grave, qu'un troisième confinement se profilait. Hier soir, un conseil de défense non prévu à l'agenda, organisé à 18h. On attendait Emmanuel Macron à la télévision dimanche soir. Finalement, ce fut Jean Castex hier soir.
Si la situation sanitaire reste mieux maîtrisée en France que chez beaucoup de nos voisins, elle est cependant préoccupante. La question d'un confinement se pose légitimement, mais nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter.
Pas de reconfinement finalement, Catherine Ney, tout ça pour ça?
Et non, alors qu'on s'y attendait, tout le terrain avait été préparé et par Gabriel Attal qui parlait de confinement serré et aussi par Olivier Véran et même Jean Castex qui défendait une ligne dur en disant le message était il faut freiner brutalement et rapidement l'épidémie sans attendre qu'on ne maîtrise plus rien. Donc on s'attendait à quelque chose de fort et puis finalement ça n'est pas le président qui s'est exprimé comme il aurait dû le faire mais Jean Castex et pour nous dire les mesures qu'il a annoncées, c'est encore un moment monsieur le bourreau, c'est ce qu'on dit au virus, on va voir si on va voir. Moi, je crois qu'ils attendent les vacances, qui sont dans 8 jours.
Oui.
Et on laisse 8 jours.
Jean Castex nous l'a dit. On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est une faute politique, Michel Cotta,
C'est une décision politique. C'est une décision politique, alors qui aura sûrement son impact. Mais enfin, Castex dit aussi que de ce confinement, on connaît tous l'aspect très lourd. C'est-à-dire que dans le même temps où on se disait « Ah oui, ils vont confiner », on était assez nombreux à dire « Attention, malaise des jeunes, attention aux jeunes qui se suicident, attention une société qui se défait, attention... » Bon, voilà. Donc, c'était un choix, politique, entre le sanitaire et le moral, si j'ose dire, le moral des troupes. On verra qui en a la responsabilité et si, quelque part, la responsabilité se retourne essentiellement et éventuellement, si on change d'avis, contre le président de la République.
Un choix politique, Charles Villeneuve, on n'avait pas l'impression que c'était le choix du Premier ministre hier soir, quand Jean Castex s'est avancé devant le pupitre.
Moi, je crois que c'est un pari politique. Du président de la République. Le président de la République a imposé une variable qui a pris à contre-pied toutes les variations de certains de ses ministres, du président du Conseil scientifique et d'une palanquée de professeurs, une cohorte de professeur de l'assistance publique. Toutes les affirmations à géométrie variable de la semaine dernière entre dimanche et mardi qui martelaient l'urgence de reconfiner au plus tôt face au virus qui mute avec ses variants diaboliques a poussé Macron à temporiser parce que je pense qu'il a aussi d'autres indicateurs et notamment des indicateurs qui montrent que dans les premiers départements qui ont appliqué le couvre-feu à 18h, ça avait ralenti quand même la circulation du virus. Mais c'est un pari politique quand même dangereux.
Un pari politique, Gérard Carrérou, qui prend en compte le mal-être psychologique des Français.
Absolument, mais c'est un pari, je suis d'accord avec Charles, c'est un pari politique dont je dirais qu'il est extrêmement risqué. Et je dirais même qu'il y a un peu quelque chose d'indécent dans la manière dont on a laissé se développer. Sans, on aurait pu, à tout moment, l'Élysée aurait pu intervenir en disant « il n'est pas question de confinement ». Or, on a laissé monter une campagne. Tout le monde s'attendait encore hier, il y a une heure avant, ou une demi-heure avant, on pensait qu'il y avait le confinement. On a laissé monter ça, on a laissé Attal parler, on a laissé Véran parler, et chaque fois ça allait dans ce sens-là. Et tout d'un coup, apparaît le chef de l'État en magicien qui dit « ben non ». Moi, c'est moi le chef.
Il n'apparaît pas, surtout. Il laisse
parler. Apparaît, bien évidemment. Mais l'ombre, l'hologramme du chef de l'État était derrière. Moi, je le voyais, tout le monde l'a vu. Oui. Tous les Français l'ont vu derrière. Donc, l'hologramme a dit, non, c'est moi le patron. Eh bien non, nous ne reconfinons. Alors, je dirais deux petites choses, simplement. Dans un premier temps, ça peut effectivement donner un cordial, comme on disait autrefois, un bol d'air à une opinion qui, effectivement, en a marre, hélas, et fatiguée des confinements et des stop and go. Mais dans un deuxième temps, si c'est, et c'est là que je pense qu'il y a quand même le pari, si c'est pour dans deux semaines être obligé devant des chiffres qui seraient devenus catastrophiques. Là, ils ne sont pas catastrophiques, on est d'accord.
On est toujours sur un plateau avec 23 000 cas.
Un plateau qui se dégrade, mais pour l'instant, ce n'est pas cata. Mais si ça devenait cata, il faudra confiner. Et à ce moment-là, eh bien, on aura quand même eu le reconfinement. Alors, ça s'appelle, en d'autres termes, dans la conscience populaire, reculer pour mieux sauter. Oui.
Non, mais il y a un indice qui montre que, de toute façon, le président de la République avait réglé un certain nombre de paramètres bien avant même le Conseil de défense. Cet indice, c'est l'absence du ministre de l'Éducation nationale
derrière Jean Castex,
Blanquer, au Conseil de défense. Et moi, ça m'a tout de suite intrigué, puisque quand les journalistes, nos reporters d'Europe, etc., nous ont dit « il manque le ministre de l'Éducation nationale », je me suis dit « c'est bizarre, parce que l'école pèse d'un poids très lourd dans cette affaire ». Or, manifestement, le président de la République est... surtout le Premier ministre, a écouté et entendu un certain nombre de représentants syndicaux de scolaires et aussi des syndicaux sociaux et par-dessus le marché, beaucoup d'élus locaux qui ne souhaitaient pas, qui ne voulaient pas qu'on ferme les écoles. Et donc, à partir de là, si vous voulez, on a senti que le poids du président, en réalité, passait par-dessus tous les autres de l'exécutif.
Alors vous le disiez, toute la semaine, on a entendu tout et son contraire au sein même du gouvernement. Confinement hybride, très serré. Écoutez d'abord ce petit florilège concocté par Capucine Patouillet.
À ce stade, encore une fois, les contaminations n'explosent pas en milieu scolaire et donc nous devons évidemment maintenir les écoles ouvertes autant que nous le pouvons.
Le couvre-feu à 18h a une efficacité, mais à l'évidence, cette efficacité s'estompe et à l'évidence, cela ne suffit pas à faire reculer le virus.
C'est aussi une période où chaque jour, et je dirais même chaque heure de chaque jour, vous vous demandez si vous prenez la bonne décision. Est-ce que dans l'équilibre entre la protection sanitaire et la protection économique, nous avons trouvé le bon équilibre? Est-ce qu'il faut fermer ou ne pas fermer les commerces?
Nous envisageons plusieurs scénarios qui vont d'un maintien du cadre actuel, avec le couvre-feu à 18h, jusqu'à un confinement très sévère.
Les grandes voix, vous, pour qui la Ve République n'a pas de secret des cafouillages, il y en a toujours eu, hein, sous tous les présidents. Là, Emmanuel Macron avait demandé le silence radio à tous ses ministres. Il a bien fait, avant d'envoyer le premier d'entre eux au fond.
Oui, et il a bien fait, mais enfin, on a plutôt entendu des ministres dire des choses différentes plutôt que d'aller dans le même sens.
Parce qu'il y a des lignes de fracture.
Non, mais il est évident, il y a des lignes d'interrogation. Parce qu'on dit, Attal a dit... confinement serré, c'est une de ces trois hypothèses, puisqu'on vient de l'entendre.
C'est un choix,
il y avait un éventail, puisqu'on vient de là dire on peut ne rien faire. Bon. Moi, je crois franchement que le côté psychologique de la population, pas seulement dans les sondages, parce que dans les sondages, d'abord, ils disaient n'importe quoi, les sondages, jusqu'à la fin, il y avait 61% des gens qui acceptaient le confinement. Je crois que le côté psychologique des choses... Cyril Nick a dit il y a une usure de l'âme. C'est vrai que la société française est dans un état terrible. Si on peut éviter le confinement, c'est bien. Voilà, j'apprends. C'est les médecins qui ont dit qu'il fallait confiner.
Oui, mais c'est une tactique.
Alors maintenant, c'est un pari, quand vous dites un pari, c'est vrai que si ça rate, si dans ce que je crois possible, hein, dans 15 jours, on dit non, finalement, ça monte trop, je crois qu'Emmanuel Macron, qui a pris ses risques, hein, le payera.
Oui, c'est une tactique pour moi parce que, effectivement, on a entendu le président de l'autorité mise en place par Macron, l'autorité de santé, monsieur le professeur Defraissy, se répondre largement à la télévision et ensuite dans des interviews sur le thème « Attention, la situation est grave, etc. Oui. Il faut qu'on finisse. » Donc là, on il a rectifié un peu le lendemain, mais enfin bon, la première impact est souvent le plus important. Et là, on a l'impression que n'oublions jamais la dimension de campagne électorale, on est à 15 mois. Le président de la République répond du même coup à l'idée que c'est le patron, ce n'est pas le président du
conseil scientifique, ce n'est pas un médecin, mais c'est lui.
C'est lui, donc premier point. Et deuxième point, effectivement, qu'il se réserve éventuellement. C'est le en même temps. En même temps, on ne fait pas de confinement cette semaine, et en même temps, peut-être, on le fera dans 2 semaines. Voilà le macronisme.
L'enjeu politique, on y revient, et on verra aussi si les Français sont prêts à accepter cet éventuel confinement juste après cette toute petite pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Sébastien Guyot.
De retour avec les grandes voix d'Europe 1, un troisième confinement à haut risque, c'est le thème de notre premier débat, d'autant que les Français sont de plus en plus défiants. Catherine Ney, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a envoyé Jean Castex au front et pris cette décision finalement de non-confinement en pensant avant tout aux jeunes ?
Oui, d'ailleurs il l'avait dit, il voulait préserver davantage les jeunes pour rééquilibrer une stratégie sanitaire qui depuis le début privilégiait quand même la protection des plus âgés. Il sentait dans les... quand on lit les réseaux sociaux, on voit que ceux qui étaient très bienveillants envers leurs grands-parents commencent à manifester, à dire « mais nous, l'avenir, c'est nous, c'est pas les anciens ». Donc il fallait y faire attention. Donc, même si les seniors sont le socle électoral d'Emmanuel Macron, les jeunes ne votent pas pour lui, il devait faire quelque chose, il devait prolonger. Mais moi, je trouve que fermer les centres commerciaux, eh bien, on voit bien que sur les réseaux sociaux, les jeunes, aujourd'hui, c'est un peu leur moment d'oxygène. Ils se donnent rendez-vous dans ces lieux qui vont être fermés.
Pour se rencontrer, pour flirter,
pour parler devant des magasins.
Passer à tabac aussi, comme à Beaugrenelle.
Oui, bon, ça, c'était sur le c'était pas dans le centre commercial.
Oui, non, mais ça fait peut-être. C'était pas loin, c'est au milieu des centres commerciaux. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la dalle de Beaugrenelle. Bon,
bien sûr.
C'est un point bon en vin.
Je n'avais pas terminé.
Allez-y, Catherine.
Je reprends la parole.
Allez-y, Catherine.
Vous en prie, ma chère Catherine.
Mais ce qui est intéressant, c'est cette décision très politique du chef de l'État est complètement en opposition à celle que vient de prendre Mme Merkel. Parce qu'elle, elle réagit moins en politique. D'abord, elle quitte le pouvoir en physicienne, qui n'a qu'une peur, c'est des explosions exponentielles des virus et notamment des variants qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, elle a écouté son expert, qui est un certain Christian Drosten, qui est un grand virologue et qui est le seul à parler. D'ailleurs, il n'y a pas des médecins qui sont sur toutes les chaînes en Allemagne. C'est toujours le même qui lui a dit attention. Et donc, les écoles ont été fermées le 15 décembre et elles continueront de l'être jusqu'au 15 février. Et d'ailleurs, les cas positifs ont diminué à 6 000 par jour, ce qui est vraiment déjà un résultat.
Donc vous nous dites, Catherine Ney, qu'il faudrait écouter les scientifiques, les médecins davantage ?
Je ne sais pas, je ne dis pas ça, mais je dis que, voyez, dans un pays européen, il y a du côté la France qui essaie de, moi je dirais pas de bricoler, mais c'est un peu un stop and go, et Merkel, quand elle décide, elle y va à fond.
Voilà. Gérard Carrérou.
Oui, on a vu quand même des fractures intéressantes, notamment dans cette semaine où on allait dans tous les sens. Il y a quand même un sens, je dirais, majoritaire des médecins. De tous les médecins, on peut dire qu'il y a des médecins qui ont des opinions différentes. Blachier sur Europe 1 avait une opinion, je dirais, mais une opinion quand même qui reste minoritaire.
Martin Blachier, épidémiologiste, qui était ce matin même l'invité de la matinale.
La communauté, en général, la communauté médicale était plutôt pour avoir une action très forte tout de suite, de manière à ce qu'on puisse juguler. Un peu, à l'allemande, puisque Catherine vient de nous rappeler l'allemande. Mais on a vu s'instaurer quelque chose qui est une sorte de nouveau débat des anciens et des modernes. C'est-à-dire qu'on a vu des prises de position, celle notamment de Gaspard Koenig, qui était l'invité tout à l'heure de Frédéric Taddeï. Si vous voulez, cette idée qu'il ne faut pas, que pour favoriser 3 ans de plus pour des vieux, on sacrifie toute la jeunesse. Or, attendez, on ne peut pas raisonner comme ça dans une société, surtout quand on en est le chef de l'État.
Non, ça rappelle un peu le Reich, d'ailleurs.
C'est-à-dire que toute vie, enfin depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et depuis Jean-Jacques Rousseau, une vie humaine est une vie humaine. Alors bien sûr, vous me direz, les anciens autrefois disaient c'est normal, il y a un âge dans la nature, quand un jeune meurt avant son père, on dit c'est pas normal, etc. Mais il se trouve qu'il faut protéger les vieux. Je suis désolé, il faut protéger les vieux et il faut pas assassiner les jeunes.
Vous évoquiez le philosophe Gaspard Koenig qui avait fait cette tribune dans les Échos vie prolongée contre vie gâchée en disant en substance que le nombre de morts dans les 15-44 ans est extrêmement faible, 0,5% de la population, et que la moyenne d'âge était de 81 ans. Ça vous choque, vous aussi, mon cher Charles Villeneuve?
Évidemment, on ne peut pas mettre de côté la vie de toute façon des personnes âgées. En réalité, une société, elle ne fonctionne pas que sur les jeunes ou que sur les vieux. Au contraire, il y a, si vous voulez, des passerelles très largement sur le plan de la culture, de la formation, entre les uns et les autres. On ne va pas ouvrir le camp des Harkis à côté de Nîmes pour parquer les vieux, ou le camp du Strudoff en Alsace pour parquer les vieux aussi. De toute façon, ça mène. Mais je voudrais simplement faire 2 petites remarques. L'une sur ce que vient de dire Gérard Carrérou. Il y a 2 communautés de médecins. Il y a la communauté, si vous voulez, des établissements publics, de l'assistance publique, et il y a la communauté des médecins de ville. Or, chez les médecins de ville, où il y a beaucoup de jeunes, justement, certains, beaucoup, on les a entendus, il n'y a pas que Martin Blachier, il y a aussi Kirzek, le médecin qui est le conseiller sur TF1, qui lui était contre, justement, un confinement trop précoce. Et beaucoup d'autres médecins des villes le sont. Et puis, ce que disait tout à l'heure, c'est très intéressant, en faisant allusion à la formation, si vous voulez, universitaire de Mme Merkel, ce qu'il y a de vrai dans ce gouvernement français, mais c'est un autre débat, c'est qu'il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de techniciens au gouvernement. Nous n'avons que pratiquement, sinon des littéraires, mais surtout des énarques.
Avec un ministre de la Santé qui, malgré tout, est lui-même médecin. Michel Cotta.
Non, je trouve de toute façon, on a l'impression que quelques solutions sont retenues. On voit ces paradoxes, on voit ces oppositions. On a beaucoup dit aussi que l'aspect industriel était important, qu'arrêter complètement la vie d'une nation aujourd'hui, c'était peut-être plus meurtrier que de confiner complètement. Alors, moi, je veux bien, franchement, j'ai pas d'avis tout fait sur la question. Peut-être que si on avait confiné 15 jours maintenant, très strictement, ça aurait arrêté la maladie, j'en sais rien. En tout cas, on a été les premiers quand même à faire le couvre-feu. Sans beaucoup de succès. Et surtout, d'un seul coup, on a oublié l'aspect industriel. C'est-à-dire que les mêmes qui disaient « Oui, mais enfin, on ne peut pas condamner la France. Regardez, 8,3 de PIB fichu, c'est pas possible, on ne peut pas continuer. » Et de l'autre côté, tout barré, tout arrêté. Franchement, j'ai pas de religion fixe là-dessus.
Un dernier mot, Gérard, qu'on n'a pas quand même évoqué. Parce que c'est bien beau de prendre une décision, confinement, pas confinement. Mais on peut concevoir le non-confinement. Moi, a priori, je suis comme beaucoup de gens. J'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas de confinement. Mmh. Mais en même temps, si on avait une politique extrêmement dynamique de vaccination, on pourrait justifier le fait qu'on n'ait pas de confinement.
Or, il y a un problème de livraison.
Le piège, c'est le ralentissement de la vaccination.
Mais où en sommes-nous? Nous aurons au mieux 2 millions, 2,5 millions de vaccinés à la fin du mois de février. Et je pense que mes chiffres sont... Enfin, ce n'est pas les miens, d'ailleurs.
Non, c'est ceux du gouvernement. 2,6 millions, voilà. Vous avez raison,
donc,
au lieu des 4 millions annoncés par Olivier Véran. Ils sont optimistes.
Donc, on ne peut pas concevoir qu'on dit, de toute façon, les vaccinations, c'est un semi... pour l'instant, un semi-échec avec un démarrage calamiteux.
Gérard, l'exécutif, quand même, a des excuses.
Mais il y a les faits
très
qui
largement.
Sont...
Les, faits sont les laboratoires et les industriels, notamment étrangers, qui fournissent ces vaccins, ce sont eux, de toute façon, qui mettent en panne l'alimentation. Et ça, ce sont aussi pour des raisons commercial.
Alors les vaccins, on va en parler juste après une pause. On parlera justement de avec notre deuxième débat du jour, du décrochage de la recherche française après les échecs de Pasteur et de Sanofi. Restez avec nous, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Sébastien Guillaume.
On vous entend bien, les grandes voix à 10h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Deuxième débat du jour. Allez, la France, pays de Pasteur, bonnet rouge de la recherche. Pasteur qui annonce cette semaine l'abandon de son projet de vaccin contre le Covid. Celui de Sanofi qui a pris beaucoup de retard, on le sait, des échecs qui ne sont finalement que la face émergée d'un iceberg à la dérive. D'abord, comment expliquez-vous que la France soit finalement la seule grande puissance à ne pas avoir de vaccin?
Pour une raison simple. Le coût moyen de développement d'un médicament a triplé en 15 ans. Au moment où la France a réduit de 28% ses subventions à la recherche-développement depuis 10 ans, depuis 2011 exactement. Ce qui fait deux fois moins de crédit que l'Allemagne. Nous sommes derrière l'Angleterre qui a augmenté son effort de 16%, l'Allemagne de 28%. Les financements aux petites, notamment structures, les biotech sont en panne. Pfizer s'est associé à une start-up allemande. Le labo anglais AstraZeneca avec des chercheurs d'Oxford. Et la France est reléguée au 32e rang du classement de la Banque mondiale sur la collaboration entre l'université et l'industrie. La Suisse est première, le Royaume-Uni 6e, l'Allemagne 8e. La commercialisation d'un médicament en France prend au minimum 489 jours. 209 jours au Royaume-Uni, 119 jours en Allemagne et combien aux États-Unis ? Un mois.
Un mois seulement. J'ajouterai un chiffre. Le budget consacré à la recherche, c'est 3% en Allemagne, plus de 3% en Suède et seulement 2,2% du PIB en France, Catherine Ney.
Oui, et puis il faut dire que l'Institut Pasteur, qui était quand même notre fierté, bien là, a espéré trouver un vaccin avec ce qui était sa spécialité, c'est partir du vaccin de la rougeole pour faire un nouveau vaccin. Or, on s'est aperçu que ça ne marchait pas dans la fabrication pour lutter contre le SARS-CoV-2. Et l'Institut Pasteur n'avait pas du tout d'équipe de chercheurs qui travaillaient sur l'ARN messager. Bon, donc, mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, qui travaille sur ces choses un peu aléatoires et qui ne débouchent pas forcément sur une rentabilité? Eh bien, il n'y a que les start-up. Et ce sont des start-up qui existent surtout aux États-Unis parce que la recherche est payée par des groupes pharmaceutiques. On les laisse chercher des nouveautés qui, lorsqu'elles marchent, eh bien, sont rachetées à ces jeunes à prix fort. Voyez, et donc, la créativité, aujourd'hui, elle n'est pas dans les grands groupes qui veulent gagner de l'argent avec des produits qu'ils seraient sûrs de vendre. Alors que les start-up, eh bien, c'est quand même, personne ne pouvait prévoir cette pandémie. Et il y avait déjà des chercheurs qui cherchaient.
À côté de vous, Catherine, je vois Michel Cotta qui ronge son frein, qui veut réagir.
Oui, parce qu'il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé sur la recherche. C'est que la recherche scientifique et médicale est très liée à la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale, elle se fait où? Dans les universités.
Exact.
Et c'est pour ça qu'en Amérique, il y a des liens très étroits entre Harvard et les vaccins,
entre l'industrie.
Bon. Et ça, il y a une tradition française, de la culture française, qui a fait que les liens avec les industries, c'est mal vu quand on est à l'université. Et puis le deuxième point, qui à mon avis est très important, on parlait d'Anna Merkel tout à l'heure, c'est vrai qu'en Allemagne, tous les ministres, ils ont une formation de chercheurs. Ils ont tous en Amérique, ils ont tous un PhD. En Allemagne, ils ont tous une recherche, un doctorat. Et en France, non. Regardez, tous les ministres, il y a des énarques. Et les énarques n'ont pas fait de recherche fondamentale, ni de recherche tout court. C'est un vrai problème de la classe politique française qui est de sortir dans le même moule, du même moule, et de n'avoir jamais...
Alors, pour aller plus loin, ma chère Michèle Cotta, j'ai sous les yeux le rapport du Conseil d'analyse économique.
Allez-y, pardon, excusez-moi, je pensais que vous aviez conclu. Arrangé ces deux aspects de l'éducation et de la société.
Oui.
Alors, ce rapport du Conseil d'analyse économique qui est paru cette semaine, c'est un conseil qui consulte, qui donne des avis au gouvernement indépendant, des économistes indépendants.
Qui est d'ailleurs, pardon de vous couper Sébastien, qui est d'ailleurs auprès du Premier ministre.
Absolument. Et donc ce CAE a rendu un rapport accablant sur la recherche française.
Accablant.
Long déclin, moyens insuffisants, faible attractivité. J'ai pris que trois termes.
Hein. Oui, moi je vois, à ce que vous dites mes camarades, j'ajouterais deux choses. Il y a quand même à travers, quand on parle santé, c'est-à-dire industrie de la santé, et c'est de ça dont il s'agit quand il s'agit des vaccins ou des médicaments, il y a quand même une dimension de souveraineté nationale. Or, nous sommes là, tous les quatre, à avoir connu une époque qui était celle, prenons l'exemple de Mitterrand ou de Chirac, mais prenons Chirac, qui est le dernier en date, ça fait une quinzaine d'années. Il y avait des rapports extraordinairement de proximité entre les grands industriels. Dans la défense nationale, parlons de Jean-Luc Lagardère, qui fut un grand patron aussi ici, Jean-Luc Lagardère et les présidents de la République. On peut prendre l'exemple de Dehaec, qui a été longtemps président de Sanofi, qui était un ami proche de Chirac. C'était des communications directes. Il y avait donc une souveraineté nationale qui faisait qu'on s'occupait de ces pépites françaises qui étaient la construction Airbus, les missiles, la défense, la santé. Aujourd'hui, on a financiarisé les grandes entreprises. Sanofi, on dit que ça reste français, mais c'est un capital éclaté et ce n'est plus une entreprise, ce n'est plus une pépite française de la même manière. Donc, si vous voulez, ça joue. Et deuxièmement, les autres pays, ceux qui ont réussi, ils ont injecté de l'argent du privé massivement. Trump, c'est peut-être un des domaines où il avait fait beaucoup de choses. Oui. Il a investi énormément de milliards dans la recherche, oui. Et c'est pas par hasard si Pfizer, il a pas eu le pot puisqu'il a pas pu en bénéficier, mais c'est pas par hasard si c'est Pfizer qui est arrivé en tête de la course, et les Anglais de la même manière. Donc il y a un moment donné, il faut réintroduire la notion de souveraineté nationale. Nous, on ne l'a introduite que pour un point, pour acheter en commun. On a fait une centrale d'achat pour acheter les vaccins. Et ça ne marche pas très bien, on en voit les conséquences.
Alors le problème de la souveraineté, le problème des start-up, on en parle juste après une nouvelle petite pause, très rapide, et on se retrouve tout de suite pour poursuivre ce débat sur l'échec de la recherche française.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Le deuxième débat aujourd'hui consacré à la recherche française, à l'échec de la recherche française. Vous le savez, le patron de Moderna qui propose des vaccins ARN messagers, il est français. Il s'appelle Stéphane Bancel. Écoutez ce qu'il disait cette semaine sur LCI.
Une des raisons que le business de Moderna est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidés financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu un euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou sécuriser des matières premières très importantes. Et donc, ça a été le problème qu'on a eu avec l'Europe. Et donc, je lui dis, je ne suis pas magicien aujourd'hui. Nos métiers prennent 6 à 9 mois minimum pour commander une machine, former du personnel qualifié et les matières premières. Donc, il fallait m'aider au printemps dernier. Aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui n'aura de l'impact que dans 6 à 9 mois.
Vous comprenez ce coup de gueule du patron de Moderna ?
Bien sûr, c'est un centralien qui est né à Marseille, qui a été élevé à Théoul, dans un petit port de la Méditerranée, dans les Alpes-Maritimes. Et il est célèbre là-bas, c'est une véritable idole. Et il n'est pas le seul. Vous savez, il y a des années, Europe 1 m'avait envoyé justement pour la recherche au centre de d'essais nucléaires et de recherche nucléaire de Los Alamos dans le Nouveau-Mexique. Et au centre de recherche du laser à Livermore, près de San Francisco. Eh bien, à Los Alamos, sur le nucléaire, sur 11 chefs de recherche, il y avait 4 Français. Et à Livermore, sur 27 chefs de recherche, il y avait 11 Français. Des jeunes chercheurs qui s'étaient expatriés, exilés, et qui, de toute façon, étaient... Parce qu'attention, ce sont des chercheurs aux États-Unis, mais il faut être des trouveurs aussi. C'est-à-dire que chaque année, si vous n'avez pas fait progresser la recherche, vous êtes viré. Il y a aussi une sanction. Il y a l'exemple en France de Valneva.
Alors, on va y revenir dans un instant, Charles, si vous le voulez bien. Mais d'abord, la fuite des cerveaux dont vous parlez, Emmanuel Charpentier, qui a été prix Nobel de chimie, qui a exercé 25 ans à l'étranger, dont en Allemagne, ce qui pose, Michel Cotta, une fois encore, ce que vous disiez tout à l'heure, le problème de la souveraineté.
Vous avez raison, quand on voit la liste des prix Nobel, quand on voit la liste des fields, des chercheurs fields, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, mais effectivement...
Sur les mathématiques.
Effectivement, field, oui. Sur les mathématiques qui sont les plus forts. Il ne reste pas ici, mais je crois que plus largement, il y a un problème quand même de désindustrialisation de la France volontaire qui a été faite depuis 30 ans, qui fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, je vois qu'on produit seulement 20% des médicaments qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Bon, et d'une façon générale, il y a, on se partage la tâche, on laisse passer telle ou telle branche ailleurs, aucune importance, il y a une mondialisation, et c'est là-dessus, au fond, que tous les gens reviennent aujourd'hui, tous les pays reviennent. Et par exemple, quand Bruno Le Maire a interdit la vente Carrefour avec aux Canadiens, avec Couche-Tard, et ben on a senti que c'était plutôt pour des raisons, voilà, maintenant il faut devenir plus indépendant,
est-ce que
plus
ça veut
souverain,
dire...
et ça a été perçu comme ça par tous les acteurs industriel.
Est-ce que mais il y a un déclassement français. Il faut admettre à un moment bien donné, sûr. Il y a un déclassement français. Souvenez-vous de l'Angleterre des années Wilson, Harold Wilson. Enfin, il faut vraiment être un ancien pour se souvenir d'Harold Wilson. Mais enfin, les travaillistes, lorsqu'ils étaient au pouvoir...
Avant, on a tous vu de quoi...
Ils sont restés au pouvoir de longues années avant Thatcher. Ils ont provoqué ce qu'on appelait le brain drain, la chute des cerveaux. Tous les Anglais les plus brillants d'Oxford, de Cambridge et de toutes les grandes universités filaient aux États-Unis. Eh bien, nous avons aujourd'hui...
C'est ce qui nous arrive.
Exactement. Ouais. Le fait. On a eu une chose formidable en Europe qui était les bourses... Et d'ailleurs, ça va peut-être disparaître pour les autres, ceux qui allaient en Angleterre, les bourses Erasmus. Mais beaucoup de ces lauréats d'Erasmus qui avaient eu la chance d'aller étudier à Oxford, à Cambridge, ou dans des universités allemandes ou italiennes ou espagnoles, ils filent où après ? Ils vont dans la Silicon Valley aux États-Unis, ils vont à Boston, ils vont occuper des chaires. Moi, j'ai mon fils a deux copains qui étaient avec lui à Paris, au lycée, qui sont aujourd'hui titulaires de chaires à Harvard. Pour Harvard, dans les matières scientifiques, pas des littéraires. On a
mon
plein
cher
de
Gérard, ce brain drain dont vous parlez, cette fuite des cerveaux, est-ce que ce n'est pas lié aussi, Catherine Ney, au salaire moyen d'un chercheur français ? Il est 63% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE.
C'est une clochardisation de la recherche. Et voilà pourquoi ils partent. Parce qu'ils sont mieux payés, ils sont mieux considérés, ils sont mieux accueillis. Et puis, il y a ces va-et-vient entre l'université, les entreprises. Et donc, il y a un dialogue permanent et c'est très gratifiant pour eux. Mais vous savez, vous parliez de l'industrie. Bon, mais là, on a notre industrie, elle a baissé de 17 à 12% alors que, de notre PIB, alors que l'Allemagne, elle est à 20%. Et aujourd'hui, vous voyez que des chercheurs, bon, ils s'en vont, mais dans la grande industrie, vous voyez, il y avait des tas de métiers, et c'est vrai dans le nucléaire, qui ont disparu. Parce qu'on n'a pas construit de centrales nucléaires depuis des années, et des métiers qui payent bien, mais que, dont les jeunes se sont détournés. Être soudeur, être chaudronnier, faire des robinets, ce sont souvent des artistes. Ce sont des métiers qui ont disparu. Et on voit qu'en ce moment, par exemple, les ralentissements qu'il y a là sur la construction de Flamanville ou même en Angleterre, c'est parce que ces métiers-là n'existent plus.
Catherine Ney, vous parliez tout à l'heure justement du rôle des start-up. Un mot de ce laboratoire nantais, vous en avez dit un mot, Charles Villeneuve, tout à l'heure. Valvena, qui espère développer son vaccin d'ici l'automne prochain. Un petit pousset, hein. Oui. Mais ils espèrent livrer 60 millions de doses au Royaume-Uni. Et pourquoi ? D'abord aux Britanniques, parce que les essais ont été financés par le Royaume-Uni.
Parce que, oui, tout à fait. Leur usine, d'ailleurs, à côté d'Édimbourg, en Écosse, celle qui va produire les 60, qui va fabriquer les 60 millions, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est une Valneva à Saint-Herblain, qui est dirigée par Franck Grimaud, et spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses. Et ce qu'ils ont mis au point, et ce qu'ils ont annoncé, d'ailleurs, le 12 janvier dernier, c'est qu'ils s'apprêtaient à fournir ce que vous venez de dire, les 60 millions de vaccins. Or, ce qui est intéressant, c'est que ça ne nécessite pas une logistique particulière. On peut le stocker à une température de 4 à 8 degrés. C'est une logistique tout à fait simple, à l'inverse, par exemple, de Pfizer, du vaccin
Pfizer. Oui, vous
faites
moins 70 et moins 80.
Qui est stocké à moins 70, et pour Moderna même, à moins 20 degrés. Donc, finalement, vous pouvez le mettre dans votre frigo, en quelque sorte. Eh bien, ça va aller. Alors, ils ont, si vous voulez, ça a été financé aussi en Suède, c'est là où ils vont le stocker. Et c'est très intéressant parce que tout ça est français, des chercheurs français.
Oui, mais alors nous, on n'a pas seulement, non seulement on a la fuite des cerveaux, dont je parlais il y a un instant, mais on a aussi un problème, c'est qu'on n'a plus les usines qui permettent... souvenez-vous quand même, il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, on a manqué en France de Doliprane, on a manqué en France de Curare, on a manqué en France d'un certain nombre. Pourquoi ? Parce que tous ces médicaments ou substances chimiques étaient fabriquées en France, elles ont été délocalisées. Si vous voulez, là, on met...
C'est pour parce ça que ne rapportez seconde... pas assez aux grands groupes.
Oui, voilà. Oui, mais je veux dire par là, il y a un moment donné, il faudra se poser le problème de la souveraineté nationale. Déjà... Et c'est le régalien. Quand on parle du régalien...
Mais c'est ce qui arrive à Sanofi.
Elle, hein. Bien sûr, on se gausse en France en disant il faut rétablir le régalien, comme le général de Gaulle, etc., c'est-à-dire les fonctions essentielles de l'État. Parmi ces fonctions essentielles de l'État, bien évidemment, il y a la production de savons et de médicaments.
C'est passionnant, les grandes voix, mais on est obligé de s'arrêter là pour ce débat. On va poursuivre dans un instant avec notre dernier débat du jour. On change de sujet, là, totalement. Marine Le Pen sera-t-elle notre prochaine présidente de la République ? Un sondage qui date d'hier lui donne des raisons d'espérer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez pour cette dernière partie des grandes voix, le débat. À présent, Marine Le Pen peut-elle devenir la prochaine présidente de la République ? Sondage Harris Interactive publié hier qui lui donne 48% d'intention de vote au second tour. Alors, on va prendre bien sûr ce sondage avec des pincettes. Nous sommes à 15 mois de la présidentielle, mais tout de même, les grandes voix. Catherine Ney, jamais la présidente du RN n'a été aussi haut. Est-ce que Marine Le Pen à l'Élysée, ce n'est plus de la politique fiction ?
Et en tous les cas, tous ceux qui réclamaient à droite et à gauche et qui sont en train de se préparer à la présidentielle pour dire plus jamais ça, le duel, eh bien on voit que dans les sondages, ils montent pas bien haut. Et en revanche, que le duel de la précédente présidentielle a de grosses chances de recommencer. Mais ce qu'on ne pensait pas, c'est que Marine Le Pen, qui avait été quand même un peu ridicule dans son débat avec Emmanuel Macron... on avait l'impression qu'elle le payait très cher, puisque jusqu'ici, les sondages disaient que son taux de présidentiabilité n'avait pas monté.
Bon. Alors, et comment depuis expliquer temps, ce retour en grâce dans les sondages, en tout cas ?
Moi, je crois qu'elle est entrée dans le paysage, qu'elle ne fait plus peur, qu'elle n'est plus... Elle est l'opposition, mais elle n'est pas agressive. Vous voyez, elle ne fait pas comme Dupont-Aignan qui demande une destitution du président de la République, ce qui est absolument ridicule.
Elle est plus silencieuse.
Elle est plus silencieuse. Et elle ne toutes les idées folles qu'elle, je veux dire, la retraite à 60 ans, le Frexit et tout ça, elle n'en parle plus. Elle dit des choses très raisonnables et elle reprend les thèmes du père, c'est-à-dire sur la sécurité,
sur l'immigration. L'identité.
Bon. Et puis, moi, il y a quelque chose qui joue beaucoup. Vous savez, on vient de vivre 2 années de violence très, très difficiles, où les dimanches, tous les samedis, il y avait les gilets jaunes ou des manifs, où les black blocs apparaissaient, où il y a eu des voitures brûlées, des pillages de magasins et tout ça. Bon, au départ, moi je me souviens que le ministre Castex essayait de dire sur les Champs-Élysées que c'était l'extrême droite. Eh bien non, ce n'est pas l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas de groupe d'extrême droite. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus.
Marine Le Pen ne fait plus peur.
Donc elle ne fait plus peur. Et donc on voit que la violence, c'est l'extrême gauche, ce n'est pas l'extrême droite.
Pourtant, c'est vrai qu'on se disait... elle n'a pas tellement profité de tout ça parce que elle se tait. Mais en réalité, aujourd'hui, quand on voit la fermeture des frontières, on se dit que c'était quand même sa première revendication.
Donc, elle n'était pas la seule. Hein.
Quelque non, part. Bon, alors,
non, moi, mais on s'était moqué d'elle.
Ce qui est paradoxal dans l'histoire de se monter le Front National, qu'on prévoit depuis longtemps, hein, on prévoit que ça va être les deux combattants de la prochaine... Ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est critiquée à l'intérieur même de son parti par des gens qui disent « tant que c'est elle, on ne pourra jamais arriver au pouvoir hein, ». C'est le cas de Robert Ménard, elle n'a jamais été aussi critiquée. Le parti n'a jamais été autant en crise que maintenant, puisque la moitié des dirigeants ont quand même été évacués vers la sortie. Il y a des problèmes financiers. Et pourtant, peut-être c'est le miracle de la troisième fois, hein, puisque c'est toujours la troisième fois que Jacques Chirac a été élu ou que Mitterrand a été élu. En tout cas, c'est vrai qu'elle se crée, elle existe, parce que les autres se sont effondrés. Aussi, c'est pas s'il y avait un grand, grand leader... Et à gauche, ou à gauche, ou chez les Républicains, ça ne se passerait pas comme ça.
Charles
Il n'y a Villeneuve, pas d'autres grands
oui,
leaders.
Charles Villeneuve, Catherine disait tout à l'heure, elle ne fait plus peur. C'est vrai que le RN est arrivé en tête en 2014 aux européennes, en 2019, et ça ne suscite plus aucun émoi dans la population française.
Non, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, ce sondage montre, à 15 mois de l'élection présidentielle, Attention, c'est pour, ça pour l'instant une image instantanée. On verra plus tard. On verra si elle a une véritable dynamique, si elle crée une véritable dynamique. Mais il n'empêche qu'elle est au-dessus de 45% au deuxième tour. Donc, elle passe, elle a passé un seuil. C'est un seuil de crédibilité.
48% et, selon ce sondage.
Et dès lors que vous rentrez et que vous avez dépassé ce seuil, c'est que vous pouvez gagner au point de vue électoral. Au moins sur le plan arithmétique, c'est le calcul, si vous voulez, des experts, des sondologues. Bon, c'est ce qu'ils font toujours comme remarque. Et ce qu'il y a de l'autre remarque qui me paraît, moi, importante, c'est qu'elle a crevé son plafond de verre, le fameux plafond de verre qui faisait qu'il y avait aussi une unité républicaine qui l'empêchait d'y aller, d'aller jusqu'au bout. Et deuxième chose, c'est qu'elle ne fait plus peur, bien sûr, c'est ce que disaient très bien Catherine et Michel, mais aussi, il y a un problème important qui se pose, et c'est pour ça que cette crise sanitaire va jouer un très grand rôle pour Macron. Ça veut dire que Macron n'est plus un rempart.
C'est intéressant ce que vous dites, Charles Villeneuve. Je me tourne vers vous, Gérard Carrérou. Elle ne fait plus peur et en même temps, parmi dans, ce qui est intéressant dans ce sondage, parmi les électeurs de gauche, beaucoup, une majorité, enfin une grosse minorité en tout cas, disent en cas de second tour Macron-Le Pen, je n'irai pas voter.
Alors c'est ça oui. Probablement le plus grand risque pour le chef de l'État, c'est d'avoir une Marine Le Pen forte au premier tour avec un... disons presque à égalité, on verra les sondages évoluer, mais pas très loin de Macron, c'est-à-dire qu'il puisse faire un score autour de 23-25 chacun, et d'avoir au deuxième tour une réaction de rejet extrêmement forte, du genre « tout sauf Macron, on n'en peut plus, 4 ans, 5 ans de Macron, etc. » Et dans ce cas-là, il y a des gens qui, effectivement, en d'autres temps, n'auraient jamais... Moi, je me souviens encore de 2017, beaucoup de gens, la musique, la petite musique était « Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas aller voter pour Marine Le Pen au deuxième tour, donc on va voter Macron ». J'ai entendu ça souvent, vous l'avez tous, on l'a tous entendu, les sondages et les votes l'ont confirmé. Aujourd'hui, on peut avoir effectivement des gens qui disent bah, « Dans ces conditions-là, on n'ira pas voter ». Alors, ce n'est pas encore fait, mais c'est vrai que je voudrais juste rappeler, il y a quand même les trois, l'alpha et l'oméga de sa progression d'aujourd'hui, ou en tout cas de sa bonne position d'aujourd'hui, c'est qu'elle campe en remettant au goût du jour les positions de papa. Ça, c'est bien. À partir de l'immigration, pour interdire aujourd'hui le voile, dans son programme d'hier, elle dit le voile interdit dans tout l'espace public. C'est la même chose, mais c'est remis au goût du jour. Deuxième chose, ne rien avancer d'original ou de subversif, parce qu'elle l'avait fait la dernière fois. Elle avait dit on sortira de l'Europe, etc. Et ça, c'est ça qui a été reproché. Et elle a perdu là-dessus et sur le débat. Et troisièmement, développer ce que j'appelle l'attitude de bienveillance, le care, comme autrefois Martine Aubry disait, la bienveillance compréhensive. La douce Marine, et c'est avec ça qu'elle progresse.
Catherine Ney.
Oui, quand je vois cette montée, d'ailleurs, moi, ça me rappelle la méthode à 6000, vous savez, c'était l'anglais sans peine, mais là, c'est la présidentielle sans peine, parce qu'elle ne dit rien de fondamentalement intéressant, elle fait quelques remarques qui ne sont pas sottes,
moi, on parle.
Et qui sont retenues et dont on parle, vous voyez, et donc, c'est peut-être sa chance.
Michel Cotard.
Et le grand événement aussi, c'est que c'est la gauche, c'est qu'une partie de la gauche peut, on revient à ce que dit Gérard, mais il est évident que moi, je ne vois pas les troupes de Jean-Luc Mélenchon, après tout ce qu'il balance depuis des années, je ne vois pas l'intégralité des troupes de Jean-Luc Mélenchon voter Macron pour éviter Le Pen. Sur beaucoup de points, ils sont tout à fait en le rouge et le brun, sur beaucoup de points, sont d'accord. Et c'est ça le danger. Alors pour le moment, c'est vrai que c'est un sondage, et puis c'est 48%, donc on voit bien qu'il y a une limite. Mais la difficulté, c'est que va faire la gauche, alors certains vont s'abstenir, mais s'abstenir, c'est aussi jouer le jeu de Marine Le Pen.
Et c'est ce que dit en effet ce sondage.
Certains vont carrément voter
je voudrais
pour Marine Le Pen.
Pardon, je voudrais signaler quand même un phénomène, il me semble que ce soit un phénomène, c'est que Xavier Bertrand avait commencé en dessous de 10, puis 11, puis 13, et qu'il est à 16%. Et qu'il a créé une dynamique, une petite dynamique pour l'instant, mais indéniable. Et par rapport à ce que disaient aussi bien Michel, Gérard que Catherine, c'est que ne pas avoir de candidature unique, aussi bien pour la droite que pour la gauche, est mortifère.
Ça, c'est sûr.
Et à la une de l'opinion, il y a ce dessin de CAQ. On voit Emmanuel Macron sur un ring avec les gants de boxe amochés par son adversaire, qui est en l'occurrence le Covid. Et derrière les cordes, Marine Le Pen qui attend et qui dit « je prends le gagnant ».
Voilà.
Oui.
Il n'est pas sûr qu'on la prenne.
Donc elle va se prendre elle-même, alors, si je comprends
bien.
Oui,
c'est ça, exactement.
C'est difficile de boxer contre soi.
Merci les grandes voix, on arrête là pour ce débat du jour, c'était passionnant comme chaque semaine. On ne fait pas le coup de projecteur, on n'a pas le temps, je suis désolé, ça sera pour la semaine prochaine. Et dans un instant, on va retrouver bien entendu la table des bons vivants avec vous, mon cher Laurent Mariotte, bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors aujourd'hui, on va vous raconter de belles histoires, celles du Paris-Brest, du millefeuille et de l'opéra entre autres, vous imaginez. Et puis nous partagerons aussi le plat du jour avec Nathalie Georges, la cuisinière du 6e étage. Faire beaucoup avec peu, c'est son adage et ça marche. À tout de suite.
À tout de suite.